Escapade et vous.
En studio
ou en balade autour d'un micro,
l'émission qui vous donne la parole.
Escapade et vous.
Les initiatives locales se racontent à l'antenne.
Bonjour à toutes et à tous. Nous nous sommes installés au Salon du Livre qui se tient aujourd'hui et demain dimanche de 10h à 18h à l'espace Sévenol, boulevard des Remparts, à Saint-Hippolyte-du-Fort. Pour sa deuxième émission, le Salon du Livre d'une Cévenne l'autre propose pendant 2 jours des rencontres avec des éditeurs et des auteurs. Alors, on accueille ce matin Hélène Meunier, élue à la commune de Saint-Hippolyte-du-Fort, première adjointe et conseillère départementale, et Camille Sauvent, qui est élue à la culture à Saint-Hippolyte-du-Fort. Et vous êtes tous les deux co-organisateurs, j'imagine, de cette deuxième édition du Salon du Livre. Je vous laisse prendre la parole.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Un tout petit mot pour témoigner la présence de la commune de Saint-Hippolyte-du-Fort qui a eu vraiment à cœur, sous la houlette de Camille Sauvent, d'organiser ce deuxième salon du livre, dont Camille est l'inventeur, hein, puisque c'est lui qui a porté ce projet l'année dernière et qui fait tout ce qu'il faut pour que ça se pérennise. Donc vous dire que nous sommes collectivement, avec également les collègues qui sont à l'accueil ou ceux qui sont dans les travées, très heureux de vous accueillir ici aujourd'hui dans cet espace Cévenol, et nous remercions bien sûr beaucoup l'Église protestante unie de nous avoir permis d'organiser le deuxième salon du livre dans ces locaux, dans la mesure où, pour le moment, vous le savez peut-être, la salle des fêtes de Saint-Hippolyte-du-Fort est indisponible pour cause de travaux, mais c'est pour la bonne cause, puisque à l'issue de ces travaux, nous aurons non seulement une salle des fêtes, mais aussi une salle culturelle, et je crois que tout le monde pourra s'en réjouir. Voilà, donc la troisième édition sera encore probablement plus réussie que les deux précédentes que nous souhaitons, évidemment, pleines de succès. Voilà, un petit mot également pour vous remercier tous d'être là et d'avoir répondu présent dans le cadre de l'organisation de cette manifestation. Voilà, et évidemment, on se perd dans les travées, on passe beaucoup de temps, on est débordé par tous ces livres qui sont autant d'histoires, autant d'univers qui nous donnent un petit peu le tournis. Hein. Voilà, on a du mal à faire son choix entre tous les ouvrages, les romans, la poésie beaucoup, française, étrangère, les livres d'artistes, voilà, les livres pour les enfants. Donc merci à tous d'avoir répondu présent à l'invitation de Camille et de la commission culture. Voilà. Et que vous dire de plus, personnellement, un petit mot pour terminer et dire passer le micro à Camille qui clôturera cette prise de parole municipale, si j'ose dire. Je dirais que le livre, c'est le meilleur ami de l'homme. Hein, il nous accompagne, il nous donne des rendez-vous, il nous console, il nous fait voyager, enfin, etc., etc. Tout ce qu'on dit toujours à propos du livre. Et voilà, alors on est triste de quitter un livre, hein, voilà, j'utiliserai à dessein un vocabulaire un peu sentimental, mais on retrouve toujours beaucoup de plaisir en ouvrir un autre. C'est ce que je vous souhaite en ces journées du Salon du Livre 2023. Prenez plaisir à feuilleter, à lire, à vous plonger dans tous ces univers qui sont si bien incarnés et présentés par tous les professionnels qui sont présents aujourd'hui. Merci à tous.
Ce matin, sur le plateau de Radio Escapade, j'accueille 3 auteurs, Nelly Duret, Franck Pavlov et Patrick Formos. Alors, bonjour à vous, Franck.
Bonjour à vous.
Franck, je fais une petite biographie rapide. Vous êtes né en avril 40 à Nîmes et vous vivez depuis plus de 10 ans dans les Cévennes. Vous avez passé plus de 20 ans en Afrique, en Asie, en Amérique latine et en France dans le secteur du développement social communautaire et surtout la défense du droit des enfants. Vous êtes l'auteur d'une quinzaine de romans adultes et jeunesse, de nouvelles et de poésie. J'ai lu quelque part que vous vous définissiez comme un écrivain de l'ailleurs, qui rencontre des exils, qu'ils soient géographiques ou intimes. Des exils engendrés par les guerres, les drames, la corruption, le cynisme et l'intolérance. L'espérance est ma patrie est donc votre dernier roman. Vous y racontez le parcours d'un jeune généalogiste suédois spécialisé en recherche successorale. Il part à la recherche d'un collectionneur et faussaire de génie né en 1918, un personnage au parcours énigmatique et aux identités multiples. Cet homme a laissé un héritage conséquent et c'est la raison pour laquelle ce jeune homme part en Estonie, petit pays baltique, passé du nazisme à la domination soviétique. Vous avez des origines bulgares par votre père. Pourquoi avoir choisi l'Estonie? Quel lien avez-vous avec ce pays?
L'Estonie, d'abord je connais un couple qui vit en Suède et dont le mari est en Estonie. Et j'étais déjà allé à Tallinn plusieurs reprises. Et petit à petit, ce pays correspondait à ma sensibilité. C'est-à-dire que c'est un pays frontière, un pays qui a été déchiré par des grands empires. À gauche de l'Estonie, l'empire germanique, et à droite, l'empire soviétique. Et depuis les années 40, et même bien avant, ils sont passés d'une influence à l'autre. Ils ont été déchirés. Ouais. Et quand un pays est un pays frontière, un pays qui est déchiré, cela m'attire.
Ah oui, c'est ça.
Parce que je trouve que, effectivement, et les personnages que je vais mettre dans mon roman vont être eux aussi déchirés. Ils vont avoir une âme frontière, si je peux dire, et qu'ils évoluent dans ce pays-là qui me touche beaucoup, et puis qui est aussi le symbole de ce qui va arriver et ce qu'on s'aperçoit maintenant, c'est-à-dire que la mainmise de l'ex-Union soviétique, qui s'appelle la Russie maintenant, sur un pays, était déjà visible en Estonie à l'époque où j'ai écrit ce livre, il y a 3 ans.
C'est ça. Votre livre, il est sorti en janvier l'année dernière, c'est ça?
À peu près. Tout à fait.
C'est juste avant la guerre en Ukraine.
Oui.
Il
n'y
a aucun lien. Vous ne pouviez pas prédire cet événement-là à ce moment-là, ou est-ce que c'était un petit peu quand même empreint de...
Non, mais justement, en étant en Estonie, on s'apercevait comment... la mainmise de l'Union soviétique n'était pas terminée.
Oui, c'est ça.
C'est-à-dire qu'il y avait toujours cette emprise de la pensée soviétique qui veut dire, mais regardez, dans l'est de notre pays, il y a beaucoup de russophones. Bien sûr, parce que 50 ans avant, les soviétiques ont déporté les Estoniens, ont mis des Russes à leur place, et maintenant ils disent, vous voyez bien qu'il y a des Russes.
C'est
ce que fait Poutine, qui fait pareil pour l'Ukraine, c'est-à-dire pour la Crimée. Il enlève tout le monde, il met quelqu'un, il dit, vous voyez bien, on est chez nous, puisqu'il y a des Russes. Mmh. Et ça se sent très bien quand on va à l'est de Narva, à l'est de l'Estonie, à Narva, par exemple.
Ouais. Est-ce que ce livre est traduit en estonien?
Non.
Pas encore?
Non, pas encore. Oui, pas effectivement, encore. C'est un petit pays de 2 millions d'habitants,
oui.
Donc c'est difficile peut-être de traduire, de trouver des fonds pour le traduire. Mais
ouais.
Je vais juste citer une petite phrase du livre. Tout l'art perverti des soviétiques est de nier la réalité. Vous connaissez le tableau de Magritte, ceci n'est pas une pipe. Une copie trônait sur un mur du bureau du KGB qui avait installé son quartier général au 23e étage de l'hôtel d'où il écoutait ce qui se disait dans les chambres truffées de micros. L'Estonie occupée a été soumise au surréalisme soviétique. Ceci n'est pas un internement, ceci n'est pas une déportation, ceci n'est pas une exécution. Voilà.
En effet, donc, ça illustre...
Pardon ? Ceci n'est pas une guerre, voilà.
Ouais.
Tout à fait.
À propos du titre de votre roman « L'espérance est ma batterie », vous pouvez expliquer pourquoi vous avez choisi cette phrase ?
Oui, l'espérance, ça me va bien. Et je reconnais que le mot patrie, longtemps, ça a été un mot un peu comme nation que je n'aimais pas trop.
Oui, c'est vrai qu'il est connoté.
Il est connoté, mais il est connoté... En Estonie, j'ai compris pourquoi c'était possible de dire ce mot avec plein d'espérance. L'hymne de l'Estonie, c'est « Ma patrie, mon bonheur et ma joie ». C'est-à-dire que la patrie, ce n'est pas une exclusion, c'est un pays où on peut accueillir les autres. C'est un pays où on se débarrasse des personnes qui veulent vous enfermer. Et au contraire, c'est un pays dont on revendique le souffle, l'âme, la géographie, sans avoir cette connotation que nous avons parce que à nos enfants de la patrie ou la notion. Et j'ai trouvé que la différence entre nation et patrie, c'était important de le dire. Et les Ukrainiens parlent de leur patrie. Ils défendent leur patrie sans... Et moi, j'admets ce mot maintenant de plus en plus. Voilà.
En fait, c'est la notion de souveraineté qu'il y a derrière cette notion. Pardon? De patrie. C'est la notion de souveraineté qu'il y a derrière cette notion de patrie. Oui. Que ce soit pour l'Ukraine ou pour l'Estonie.
On peut dire, je suis heureux chez moi, venez chez moi.
Oui, c'est ça.
Et bien sûr, ceux qui disent, je suis bien chez moi, je ferme les frontières pour que vous ne veniez pas m'embêter, c'est autre chose.
Ouais,
mais ça ne dépend pas du mot patrie. Mm-hmm. En prenant un peu d'âge, j'ai vu que des mots slogans que je disais à une époque ont pris une autre connotation et je les emploie avec beaucoup plus de précaution.
Bien sûr.
Et en plus, un écrivain, il s'aperçoit le poids des mots. Et qu'un mot, ça ne peut pas être balancé comme ça. Et à la fin du livre, je parle d'une grande fête qu'il y a en Estonie où il y a une chorale de 30 000 personnes. Je dis bien 30 000 personnes qui vont chanter des hymnes, des hymnes folkloriques, des hymnes d'avant de l'Estonie. Et c'est merveilleux. Tout le monde est en pleurs. Les petites filles avec des couronnes de fleurs, des coquelicots, des bleuets, les vieilles personnes avec leurs casquettes en tremblotant chantent l'hymne de la patrie de l'Estonie. On disait, voilà, vous ne nous avez pas chassés, vous ne nous avez pas détruits, ni les nazis, ni les soviétiques. On a toujours notre souffle. Écoutez, la Baltique qui est devant nous, elle respire toujours au rythme de la Baltique et on continuera à vivre.
Et c'est quoi ce pays aujourd'hui alors? Après ce passé assez chaotique, c'est devenu quoi l'Estonie aujourd'hui?
L'Estonie, c'est un pays qui fait partie de l'OTAN, heureusement pour eux, ça les protège. Un pays qui fait partie de l'Europe et qui est tout à fait à l'avant-garde de tout ce qui est numérique.
Ah oui, c'est ça.
Voilà. Ouais. Et qui a fait son originalité sur accueillir des e-commerce, des e-industries comme ça. Voilà.
D'accord.
Beaucoup. Autrement, il y a 80% qui est en forêt. Hein.
C'est ça. C'est la forêt, très, ça représente très, un pourcentage
très, très,
énorme
très,
du
oui,
pays.
Tout à fait.
Oui, oui. Si on revient un petit peu à votre roman, il y a pas mal de personnages assez atypiques, dont le fameux collectionneur et fausseur de génie. Là. Mais on parle de beaucoup de choses dans votre livre. On parle à la fois de l'histoire, on parle d'histoire de l'art. On parle aussi des humains dans leur fragilité, un frère et une sœur qui se retrouvent.
Voilà, tout à fait. Là, on vient de parler de la toile de fond, mais c'est comme au théâtre. Je mets une toile de fond et je mets des personnages dedans.
Ouais.
Et les personnages, c'est un homme et une femme de la cinquantaine, frères et sœurs, qui vont aller, malgré eux, à la recherche de leur père, qui, ils supposent, de leur alléguer un tableau d'une grande valeur.
C'est ça.
Un tableau d'Egon Schiele.
Alors pourquoi ce choix de peintre?
Parce que Egon Schiele, c'est un peintre tourmenté, torturé, et qui a vraiment une patte très rapide, très, très intense, qui est troublant. Mmh. Qui est très troublant. Et ça, c'est c'est Egon Schiele, mais alors c'est tout calme. Mais normalement,
la couverture.
C'est des écorchés, c'est des personnes très sexualisées. Mmh. Et j'aime beaucoup cette peinture-là.
Ouais.
Et ça a été des tableaux qui ont été interdits par les nazis parce qu'étant un art dégénéré.
Ouais.
Et j'en profite pour faire tout un passage sur la spoliation des tableaux par les nazis qui ont été immenses et qu'on commence peu à peu à restituer et dont beaucoup sont maintenant dans les musées soviétiques.
Ouais.
Une fois que les soviétiques sont rentrés à Berlin... Ils ont fait la même base sur les tableaux qui étaient spoliés et ils sont doublement spoliés parce que maintenant, ils sont enfermés dans les musées de Leningrad ou de Moscou maintenant. Donc, ces tableaux m'intéressent beaucoup parce qu'ils ont une identité floue aussi.
Oui, c'est ça.
Et dans ce livre-là, je m'aperçois que je mets en face quelque chose qui est flou. Parce que la vie est intéressante parce qu'elle n'est pas figée comme ça.
Mm-hmm.
On peut très vite basculer d'un monde à l'autre, l'Ukraine en est le symbole.
Tout à fait.
Il y a un an, jamais personne n'aurait pensé qu'ils allaient retomber, je sais pas, deux guerres en arrière, quelque chose comme ça.
Mmh.
Et tout peut se passer comme ça.
Mmh. Et donc, il y a vraiment un parallèle entre la fragilité la fragilité des personnages et la fragilité d'un contexte historique, de
l'histoire d'un pays. Et au milieu se glisse l'espérance, qui est quand même un souffle qui parcourt tous mes personnages. Cet homme et cette femme qui sont frères et sœurs, qui vont découvrir qu'il y a un père qui, a 40 ans avant, leur a légué un tableau d'une grande valeur sans se nommer. Mmh. Et ce père lui-même, on trouve ses origines dans un cimetière soviétique et dans un cimetière ex-nazi. Et là aussi, cette double identité m'a plu. Mmh. Voilà, parce que c'est important de voir que pour comprendre le monde, il faut le décoder. Et le décoder, c'est d'apprendre à feuilleter l'une après l'autre les différentes couches qui font ou la personnalité ou la personnalité d'un peuple.
En fait, vous avez beaucoup, très envie de parler de la complexité, qu'elle soit humaine, historique. Bien sûr.
C'est le mot même pour comprendre le monde. Ouais. Il faut qu'il soit complexe. Et tout à l'heure, tu me parlais de Matin Brun, qui est un livre...
Je vais en parler, d'ailleurs.
Vous me parlez, pardon.
On se connaît un peu, c'est pour ça.
Entre vous et tout, voilà. Ouais. Voilà. Je vais mettre...
Alors Matin Brun. Donc, j'enchaîne sur... vous êtes l'auteur de cette nouvelle intitulée Matin Brun, qui est parue en 98 et qui a été un grand succès littéraire. Et puis, bon, c'était effectivement une antidote à l'intolérance à l'époque, et ça le reste aujourd'hui. Et c'est traduit en 25 langues. J'ai vu des parallèles, moi, avec votre dernier roman. Mais est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu s'il y en a ou pas, d'ailleurs, parce que c'est peut-être que je me trompe.
Pas du tout, cher ami. Parce que, justement, vous parlez de complexité. Et Matin Brun, c'est attention quand quelqu'un vous dit il n'y a qu'une couleur.
Oui.
Quelle que soit la couleur, brune, rouge, jaune, noire, on a vu toutes les dictatures de toutes les couleurs s'imposer au monde par une seule idée. Une seule couleur, ça voudrait dire qu'une seule pensée.
Oui.
Et la complexité, c'est justement d'admettre qu'il y a plusieurs pensées, que personne n'a le droit de vous dire, si je le dis aux jeunes, de vous dire ta vie sera rouge, jaune ou violet. C'est à toi de choisir les couleurs de l'arc-en-ciel de ta vie.
Et qu'elles peuvent changer.
Et qu'elles peuvent changer. Oui, oui, oui. Ce n'est pas uniforme. Et la dictature, c'est de mettre tout le monde dans le même endroit. Et pour ça, il n'y a rien de tel que de supprimer la pensée multiple, c'est-à-dire supprimer les journalistes, supprimer les livres qui font la multiplicité de la pensée, et enfermer les gens pour qu'il n'y ait qu'une seule idée et leur donner, à travers la télévision, une seule vision du monde. Et en ce moment... Effectivement, c'est beaucoup comme cela.
Oui, c'est beaucoup comme cela. Ouais.
Et Matin Brun revient.
Oui, c'est ce que j'allais vous demander. Du coup, Matin Brun, vous devez rouvrir les pages de cette nouvelle régulièrement.
Et ce soir, à 16h, j'ai un rendez-vous Zoom avec la Russie. Ça fait très chic de dire j'ai un Zoom avec la Russie.
Voilà, c'est pas avec Poutine,
je le dis à tout le monde. Parce qu'il y a des comédiens russes. La plupart des artistes sont partis. La maison d'édition qui avait édité Matin Brun en Russie a fermé et sont en exil. Et là, il y a des comédiens qui prennent le risque, dans une salle secrète, de mettre Matin Brun en russe et de faire une heure de Matin Brun, une lecture théâtralisée.
Ah, oui.
Et je serai là en Zoom pour discuter avec eux à Moscou. Ça me touche beaucoup de voir que vraiment, il y a des gens qui résistent et qu'ils se servent de Matin Brun pour dire « Non, vous ne m'enfermerez pas. Non, vous ne mangerez pas ma pensée. Elle sera toujours différente de la vôtre, peut-être. Mais j'aurai le droit de parler. » Et Matin Brun, c'est ça. Le droit d'être différent.
Ouais.
Et ça, c'est vrai qu'à travers mes livres, tout en les romançant, moi, j'aime beaucoup mettre des personnages, les faire évoluer, le montrer comment ils doutent, comment ils sont heureux, comment ils s'aiment. Et c'est formidable. Un roman permet de faire un petit pas de côté par rapport à la réalité et de ne pas désespérer le lecteur. Et de dire, mais voyez, à travers ça, c'est le mot espérance. Voilà. Le mot espérance, c'est là. C'est un mot aussi un peu connoté peut-être par une vieille idée de christianisme. Mais là aussi, l'espérance n'appartient pas à une idéologie. Elle appartient à un souffle.
Oui, c'est ça.
Un souffle personnel, c'est-à-dire... Moi, j'ai tout ce que j'entends à la radio qui est hyper pessimiste, victimologie, là, je ne supporte pas, parce que non, pourquoi une génération serait plus en danger que les autres? Je sais, il y a des difficultés climatiques, sanitaires, économiques. Moi, j'ai un certain âge, et puis j'ai vécu aussi mes grands-parents, mes parents, les difficultés. Et ils inventeront quelque chose de nouveau. Quoi.
Oui, chaque jour suffit sa peine. Enfin, on verra si vous avez raison.
Pardon ?
Dis chaque jour suffit sa peine. On verra si vous avez raison sur, sur ce qui attend la jeunesse dans ce monde.
Bah, bien sûr, je ne vois pas pourquoi elle serait d'un seul coup éteinte. Avec une...
Ah non, elle est, en tous les cas, elle n'est pas éteinte. Il y a des beaux projets et des belles réactions de la jeunesse aujourd'hui.
Oui.
Merci beaucoup, Franck, pour ce quart d'heure de présentation de votre livre qu'on peut retrouver sur les tables de la librairie Alter Livre. On va faire une pause musicale.
Merci à vous.
Et on retrouve Patrick Formos sur le plateau de Radio Escapade. À tout de suite.
Merci.
Nous sommes toujours en direct du Salon du Livre sur les ondes de Radio Escapade. Et j'accueille maintenant Patrick Formos. Bonjour Patrick.
Bonjour.
Pour son dernier roman en deux tomes dont on va parler, L'eau des deux rivières. Vous êtes né en 1960 à Perpignan, de parents d'origine espagnole, venus l'un et l'autre en France à l'issue de la guerre civile espagnole. Et vous avez passé votre enfance et adolescence en Catalogne française. Vous êtes médecin généraliste et vous avez choisi de ne plus vous consacrer davantage à l'écriture et de ce fait, vous pratiquez désormais la médecine à mi-temps à Montpellier et vous remplacez régulièrement des médecins généralistes à Saint-Hippolyte-du-Fort. C'est ça ?
C'est ça, c'est comme ça que j'ai atterri ici. Donc,
en
travaillant à Saint-Hippolyte, j'ai sympathisé avec l'écrivain précédent que vous venez d'interviewer, Franck Pavlov, qui m'a amicalement invité à participer au Salon du Livre de Saint-Hippolyte.
D'accord. Donc, L'eau des deux rivières, c'est votre troisième roman. Il y a eu deux pressants de romans, Sambucus et La Braise des Coquelicots. Donc, si on revient à L'eau des deux rivières, c'est donc un récit qui fait l'objet de deux tomes. Je vous laisse mettre le casque. Donc, deux tomes qui sont intitulés respectivement Angel et Colette, et qui donc relatent sur trois générations l'histoire d'une famille catalane avant, pendant et après la guerre civile espagnole. C'est une saga familiale construite autour de la guerre civile espagnole. C'est l'histoire de votre propre famille. Comment vous avez pu recoudre cette histoire ? Parce que c'est pas simple quand même de retrouver un peu tous les éléments d'information.
Alors, L'eau des deux rivières, c'est pas vraiment l'histoire de ma propre famille, mais c'est une histoire qui est quand même largement inspirée on va dire, de ma légende familiale, parce que nos histoires familiales, déjà, nous les recevons tous comme des légendes,
oui,
je pense.
Oui, c'est vrai. Et ça nous plaît, d'ailleurs.
Voilà. Donc, cette légende, moi, j'en ai fait un roman. L'eau des deux rivières, il y a deux personnages principaux qui...
Un masculin et un féminin,
donc, qui font les titres des deux tomes, Angel pour le premier et Colette pour le second.
Oui.
Le roman va suivre la trajectoire de ces deux personnages, trajectoires qui vont se croiser, se recroiser tout au fil de l'intrigue.
Oui.
Pour retracer quelque part ces deux lignes, les deux rivières, ces deux destins.
En
littérature, la rivière, c'est une image de destin, c'est une destinée humaine. Ces deux destinées humaines qui vont représenter quelque part, métaphoriquement, un peu l'histoire de la tragédie espagnole. Quoi.
D'accord. Et donc, quand on écrit comme ça une saga inspirée donc de votre propre histoire, quelle place on peut laisser à l'imaginaire ? Est-ce que vous êtes privé de... Enfin, quel rapport à la fiction on peut avoir dans ce cas-là ? Parce qu'on est un peu rattrapé par la réalité, non ?
On est rattrapé par la réalité, d'autant plus que l'histoire de la guerre d'Espagne, c'est une histoire déjà,
qui est romanesque
en soi. Donc, c'est un matériel qui est déjà très riche au point de vue romanesque.
Pour un
romancier, c'est intéressant. Après, la question qui se pose, c'est de savoir comment on va travailler avec ça.
Oui, c'est ça. Beaucoup de matière.
Voilà, on a beaucoup de matière. Parfois même, on se dit qu'il y a des choses qu'il va falloir trier qui sont très romanesques mais qu'on va
presque pas utiliser, on va censurer
parfois.
Ouais.
Donc en l'occurrence, dans mon cas, j'avais deux sources, la source paternelle et la source maternelle. Pour ces deux rivières, c'est le joli mot, le mot source. Du côté maternel, à savoir ma grand-mère maternelle, j'avais une relation privilégiée avec elle. C'était quelqu'un de très ouvert, de très aimant, de très présent.
Et la grand-mère, comment ça
La grand-mère maternelle, c'est un peu la grand-mère idéale, on va dire.
Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire.
J'ai eu la chance de vivre ça. Donc, grâce à elle, j'ai récolté beaucoup de matière. Et je dois dire que le parcours de Colette, la rivière qui représente Colette, elle est largement inspirée
d'elle.
De la vraie histoire, on va dire, de la vraie légende de ce côté-là. Du côté de paternel, c'était surtout mon grand-père. J'avais besoin d'un personnage masculin. J'avais beaucoup moins de choses et je n'avais pas vraiment un personnage exploitable pour l'histoire que je voulais écrire. Donc j'ai été obligé pour ça d'aller chercher à travers mes lectures, à travers aussi toutes les personnes réelles que j'ai pu rencontrer qui ont participé au conflit espagnol. Il y a 20 ans encore, quand j'ai commencé à travailler le sujet, il y avait encore beaucoup d'anciens combattants de la guerre d'Espagne qui étaient vivants. Donc j'en ai rencontré beaucoup de gens que j'ai interviewés.
Et puis, forcément aussi, quand on crée un personnage, on y met un peu de soi aussi. On se transpose aussi un peu dans lui. Voilà. Donc, c'est comme ça que j'ai travaillé. Alors, du côté, je cherchais, parce que les deux personnages, ces deux personnages qui sont quelque part complémentaires et antinomiques. D'un côté, on a Colette, qui est un personnage féminin.
Ou en couleur,
qui est quelqu'un qui est né dans un milieu plutôt favorable, même si c'est un milieu relativement modeste. C'est quand même une enfant de l'amour. C'est une enfant qui va se construire dans une certaine sécurité, qui est plutôt gâtée par la nature, puisqu'elle est jolie. Donc, elle a un contact avec l'entourage et les gens du village qui est assez facile et toujours très positif, et qui va grandir finalement dans une certaine facilité et une certaine... Voilà, un personnage heureux qui va grandir avec même une certaine désinvolture, on va dire, au cœur d'elle. Et puis, c'est la guerre, c'est les circonstances de la guerre qui vont la transformer quelque part en personnage tragique, qui vont l'abîmer, qui vont la faire se découvrir et qui vont faire d'elle une héroïne, ce qu'elle n'était pas du tout au départ. Ouais. Le personnage d'Angèle, il est plus noir et... contrairement à Colette, à la différence de Colette, en réel, c'est un orphelin. Donc, il naît de suite avec le sceau du destin, on va dire, imprimé. Hein, parce que quand on est orphelin, forcément, la vie est compliquée, surtout à cette époque-là, puisque en réel, il naît approximativement donc, au début du siècle. Et il est déjà, en soi, par essence, c'est un personnage tragique. Et... c'est quelqu'un qui a été élevé au départ dans la religion chrétienne et qui a une espèce de foi chevillée au corps, comme ça. Et l'histoire de sa trajectoire, c'est l'histoire de quelqu'un qui va petit à petit désenchanter toutes ses croyances les unes après les autres. Voilà. C'est une espèce comme ça de descente, de désillusion en désillusion, une espèce de descente vers le néant. Voilà. Et je continue ou...
Ben oui, moi je trouve ça très bien. Je voulais vous poser une question là-dessus, c'est que est-ce que c'est un hasard que ce soit le personnage masculin qui soit dans plutôt le personnage noir et le personnage féminin qui soit le personnage plutôt de la lumière?
C'est pas un hasard, certainement, puisque du côté féminin, j'avais ma matière, et ma matière, on va dire, elle était lumineuse. Hein, et puis, pour le côté littéraire de mon travail, j'avais besoin d'un personnage antinomique, et j'avais besoin d'un personnage qui descende dans l'obscurité, quoi, qui s'enfonce dans le néant. Donc, il fallait que je parte d'un personnage lumineux au départ et qui allait s'obscurcir petit à petit. Et donc, ce personnage, il y a une petite anecdote que j'aime bien raconter parce qu'elle est intéressante. Ce personnage, finalement, je ne le trouvais pas, je ne l'avais pas, je ne le touchais pas. Je rencontrais beaucoup d'anciens combattants de la guerre d'Espagne. Alors, moi, mon milieu, la guerre d'Espagne, je fais une petite digression, la guerre d'Espagne, c'est une guerre complexe, hein, c'est une guerre où toutes les idéologies du XXe siècle s'affrontent, hein, déjà en soi. C'est aussi une guerre de nationalisme. Franck parlait tout à l'heure des idées de nation. La guerre d'Espagne, c'est le pouvoir central qui affronte les pouvoirs périphériques, hein, la Catalogne, le Pays Basque, contre le pouvoir central de Madrid. C'est une guerre de classe, c'est les riches contre les pauvres. C'est aussi une guerre de religion, donc c'est le catholicisme avec ce qu'il pouvait avoir d'oppressant au début du XXe siècle en Espagne contre les idées des Lumières et issues de la Révolution française. Et donc, volontairement, moi, j'ai choisi l'aspect guerre de religion et anarchisme. Mon personnage d'Angèle est un anarchiste. Alors, c'est pas un hasard, c'est parce qu'en Catalogne, l'anarchisme était quand même assez dominant. Hein. Et il y a un parallèle aussi que j'ai aimé souligner entre l'anarchisme espagnol et le christianisme, parce que tous les deux... Il y a une espèce de thèmes comme ça qui s'affrontent, deux idéologies qui s'affrontent, le christianisme d'un côté et l'anarchie, mais qui finalement ont quelque chose qui est un petit peu ressemblant, à savoir une espèce d'espérance, une espèce de foi presque aveugle, on va dire, dans le futur et également une espèce de mysticisme aussi, un sens du sacrifice, de l'absolu, voilà, qu'on retrouve à la fois dans l'anarchisme espagnol du début du siècle et le christianisme, non pas le catholicisme qui est quelque chose de hiérarchisé, d'organisé, mais peut-être le christianisme primitif. Voilà. Et donc, pour revenir à la petite anecdote, j'essaie de ne pas perdre le fil de ce que je suis en train de raconter. Pour revenir à la petite anecdote par rapport à la création de mon personnage d'Angel. Donc, je cherchais mon personnage que je ne trouvais pas. Les gens que j'avais interviewés, que j'avais rencontrés, gardaient toujours une certaine pudeur, finalement. Ah, oui. Beaucoup d'anarchistes espagnols sont comme ça, assez froid, assez dur, ne se livre pas facilement au niveau de leurs sentiments, de la complexité de leurs sentiments. C'est des militants qui communiquent beaucoup sur leur cause, mais peu sur eux-mêmes. Et comme disait Franck tout à l'heure, quand on est romancier, ce qui nous intéresse, nous, c'est ce qu'il y a au fond des individus, c'est pas la surface. Et ce fond-là, je n'arrivais pas à le trouver. Donc je cherchais, je tournais autour dans plusieurs romans que j'ai écrits. Avant ça, je tournais autour de personnages sans vraiment leur donner la chair et le sang que je souhaitais leur donner. Et un jour, un de mes amis qui travaille dans une déchetterie m'appelle et me dit qu'il avait récupéré une quantité de livres sur la guerre d'Espagne. Il faut savoir que dans les déchetteries, les gens jettent énormément de choses. Hein. Ils jettent des choses qui sont souvent en bon état. Hein. Et ils jettent beaucoup de livres. Et donc, voilà, je suis allé récupérer ce stock de livres. Parmi la quantité de livres qu'il m'a remis, il y en avait une bonne partie que je connaissais et qui m'ont servi à rien. Et puis, je suis tombé sur un petit livre comme ça, édité à compte d'auteur, qui s'appelait « Conciencia adentro ». En espagnol, ça veut dire « conscience à l'intérieur ». À l'intérieur. C'était un petit truc comme ça, publié, certainement tapé à la machine. Et je suis rentré dans ce livre. Et ce livre, finalement, il racontait le parcours d'un vieil anarchiste espagnol qui racontait sa vie et qui était parti d'une éducation chrétienne, comme ça. Et grâce à son intelligence, à sa lucidité, il avait réussi à démystifier cette pensée chrétienne et à la rejeter. Et petit à petit, il avait basculé comme ça dans un autre type de pensée. Il avait basculé en abandonnant la pensée chrétienne. Il avait basculé sur une pensée, on va dire, une foi dans l'anarchisme bakouninien, l'anarchisme collectiviste, qui au moment de la guerre le déçoit aussi. Et il se rabat sur une espèce de croyance en l'individu. Donc il devient nietzschéen. Et à la suite de ça, il se rend compte que l'individu isolé, finalement, le surhomme, c'est quelque chose d'inaccessible et c'est aussi une illusion. D'accord. Puis à la suite de ça, il va croire à l'amour, mais il s'aperçoit que l'amour aussi est un piège quand on est en quête d'absolu, toujours pour quelqu'un qui est en quête d'absolu. Et il en revient aussi et finalement, petit à petit, il se dirige vers le néant. Et ce qui m'a interpellé dans cette petite anecdote, c'est que son livre a ce vieil homme, on l'a retrouvé au fond d'une benne à ordures, et ce qui illustre parfaitement cette espèce de descente vers le néant et l'obscurité. Et quand j'ai eu terminé de lire ce bouquin, je me suis dit, voilà, là je tiens mon personnage. Et donc je me suis beaucoup inspiré de la trajectoire de cet inconnu, qui illustre parfaitement mon Angel à moi.
D'accord. Et une dernière petite question, comment a été reçu votre livre dans votre famille? J'imagine qu'ils l'ont lu.
Alors, dans ma famille proche. Voilà. Mon père, malheureusement, est décédé avant d'avoir pu avoir le plaisir de le lire. Ma mère, c'est un petit peu difficile parce que ma mère est toujours très très fière de tout ce que je fais.
Ah oui,
donc on va relativiser. Sinon, dans ma famille proche, c'est quand même, voilà, c'est toujours, les gens étaient assez contents que j'ai transcrit comme ça la légende familiale, même si elle est quand même revue à ma sauce, on va dire.
Oui, et puis apparemment, d'après ce que vous dites, c'est un travail de longue haleine. Vous avez commencé, vous avez eu ce projet depuis longtemps, non?
Le projet, je l'ai depuis longtemps, finalement, le projet, je l'ai depuis que j'écris, depuis une vingtaine d'années. Mais sur mes romans précédents, j'ai toujours tourné autour du sujet, c'est-à-dire que le sujet était loin, les personnages étaient éloignés, ils ressemblaient un petit peu aux personnages que je voulais traiter, mais pas tout à fait. La guerre d'Espagne était là en toile de fond, mais elle n'était jamais présente. Et il a fallu quand même pas mal de temps pour que je me décide à prendre vraiment mon sujet après le corps. Voilà.
Et donc, en espérant que c'est juste le début d'une longue série, parce que si vous avez des projets littéraires après ça, quoi.
Oui, j'ai d'autres projets littéraires, mais là, je pense que je vais... Enfin, c'est pas que je pense, c'est que je vais laisser la guerre d'Espagne de côté, parce que ça m'a occupé là depuis une vingtaine d'années.
Oui, voilà.
Et pour passer à autre chose, voilà, à d'autres périodes et d'autres aspects de ma vie.
Ok. Merci beaucoup à vous.
Merci à vous.
Vos livres sont également sur le stand d'Alter Livre, donc n'hésitez pas à aller les consulter. On fait une deuxième pause musicale et on revient interviewer Nelly Duret qui est là aussi. Merci, à tout de suite. Du Salon du Livre de Saint-Hippolyte-du-Fort qui a lieu donc aujourd'hui et demain, et nous sommes sur les ondes de Radio Escapade. J'accueille pour terminer Nelly Duret qui, pour son livre sur Augustine Soubéran dont nous allons parler. Je fais une petite présentation rapide de vous. Vous êtes né en Provence, mais vous n'en êtes pas moins enraciné en Cévennes. Vous avez choisi de vivre...
Oui, absolument.
À Saint-Jean-du-Gard, plus exactement.
Il y a plus de 20 ans. C'est un choix de vie.
Voilà. Vous avez été enseignante d'histoire et de géo au lycée Marceau-Lapierre à Saint-Jean-du-Gard.
Collège.
Au collège, pardon. Et vous êtes passionnée d'histoire et vous intéressez plus particulièrement aux vies de femmes dont les destins sont rarement rendus visibles.
Alors là, évidemment, il s'agit d'un engagement pour moi, parce que vous avez vu que le nombre des féminicides est en train d'exploser. Oui. Et si nous voulons lutter contre ces féminicides, il faut que les femmes investissent l'espace public. C'est-à-dire qu'imaginez-vous qu'un village, une ville comme Saint-Jean-du-Gard, pas une femme n'est honorée sur aucune rue, aucune place, ni aucun espace. Donc, quand j'ai demandé à notre maire de donner un nom de femme à un lieu, oui, il m'a répondu, mais les femmes, elles n'ont rien fait, ni à que se tuer. Alors, il y avait une petite impasse, on l'a appelée impasse des fileuses, et on m'a dit, tu es contente ? Non, je n'étais pas contente. Voilà.
À l'époque, vous aviez déjà écrit ce livre sur Augustine Soubeyran ?
Non, pas du tout. Oui, d'accord. Je n'avais pas encore écrit. Donc, je me suis dit qu'il fallait faire sortir des femmes remarquables de l'ombre, oui, de façon à ce que je puisse répondre au fait que les femmes n'ont rien fait.
Ah oui,
elles étaient dans leur
c'est...
cuisine, confinées dans leur cuisine. Oui. Non.
Mais il n'y a que les hommes qui croient des choses pareilles, non ? On est d'accord ?
Je ne sais pas. Je ne sais pas me mettre dans la tête d'un homme. Je suis
profondément une bonne réponse, oui,
féminine.
Donc, votre quatrième ouvrage, il s'intitule « Augustine Soubeyran, une sévenole et philanthrope féministe en Australie ». Donc, si je résume un petit peu la vie de cette femme, elle était la première enfant d'un couple d'instituteurs. Donc, elle était, je dirais, elle baignait un peu dans la pédagogie déjà. Et elle naît en 1858 à Saint-Jean-du-Gard, au sein d'une famille protestante, ce qui est un schéma assez classique, je dirais, pour une sévenole.
Alors, si je peux vous interrompre, oui, je vais noter cette particularité saint-jeannaise. C'est-à-dire que l'école laïque gratuite et obligatoire, c'est 1881-82. Ouais. Mais à Saint-Jean-du-Gard, en 1827, 1829, nous avons déjà les écoles.
Et c'est lié à quoi, ça ?
Ah ben, tout simplement à la lecture de la Bible. Le protestant doit lire la Bible tous les jours, donc il faut qu'il soit alphabétisé.
D'accord.
Fille comme garçon. Donc on a une avancée sur l'école dans la commune de Saint-Jean-du-Gard, mais sur les Cévennes aussi.
Oui, c'est ce que j'allais dire.
Extrêmement importante.
Ah oui,
intéressant. Oui, avec le bilinguisme.
D'accord.
Parce que si vous lisez votre Bible en français, vous parlerez à vos moutons et à vos poules en patois sévenol, ok,
ouais,
mais quand vous parlez à Dieu, vous parlez en français. Mmh. Et quand vous allez au culte le dimanche, vous entendez un pasteur qui parle français. Pensez à la petite bretonne. J'ai rien contre les bretons, bien sûr. Mais elle parle à son cochon ou à son mouton en breton. Et le dimanche, elle va à la messe et elle entend un curé qui parle en latin. Quand elle arrive à Paris, elle n'a jamais entendu un mot de français.
Ah oui, d'accord.
Et c'est le personnage de Bécassine qui n'a pas les codes. Vous voyez, comme quoi le bilinguisme et l'école en Cévennes est extrêmement importante.
Ah oui, c'est très très intéressant, effectivement. Donc, à travers ce livre, on découvre le parcours d'une femme au chemin de vie incroyable, quand même. Hein, et une femme, surtout, qui est une femme engagée, qui est comment dire, une forte tête, je dirais, hein, et autoritaire, mais en même temps très, très ouverte, avec un esprit très ouvert. Et donc, on a du mal à imaginer au départ comment une jeune fille qui naît à Saint-Jean-du-Gard peut atterrir en Australie, quand même. C'est déjà, en soi, c'est déjà une aventure incroyable, non ? Parce qu'elle part à l'âge de 25 ans en Australie.
20 ans.
Non, 20 ans. Il me semblait qu'elle était partie en Écosse.
Avant, à 18 ans, elle part en Écosse.
Ah, c'est 18 ans.
Et
ouais,
elle a eu une expérience négative en Écosse parce qu'elle est comme toutes les gouvernantes entre
l'Arbre et l'Écorse.
C'est-à-dire qu'elle ne fait pas partie du monde des maîtres, mais elle ne fait pas partie non plus de la domesticité.
Ouais.
Elle est au milieu. Il faut relire les livres de Charlotte Brontë là-dessus,
oui,
Jeannère. Et on comprend ce qu'est une gouvernante à l'époque.
Oui.
Et pour elle, qui dit qu'elle doit être en tête de la parade, elle ne peut pas supporter ça. Elle a une haute opinion. Vous savez, c'est ces Cévenols protestants qui ont lutté. Son ancêtre a ramé aux galères. Hein. Il a ramé sur la fière, on le connaît. On l'appelait Soubeyran la perruque, voilà, à Bagnères. Donc, elle a des ancêtres illustres dans la résistance pour la liberté de conscience. Et elle est dans cette mouvance-là.
Elle a hérité de ça.
Oui, absolument.
Ouais. Et puis, on sent que c'est quand même une femme qui, très jeune, a pas du tout envie d'être dans le sillon de la femme au foyer, quoi. Hein.
Pas du tout.
Dans un contexte historique où c'est pas facile de s'opposer à ça.
Absolument. Ouais. Alors elle a fait des études à Lausanne, donc elle a deux possibilités, ou elle devient courtisane
c'est
ou
ça.
Gouvernante.
C'est ce que vous expliquez.
Il n'y a pas d'autre solution. étant donné que ça n'a pas marché comme gouvernante en Angleterre, elle s'aperçoit que les bateaux pour l'Australie offrent des places aux femmes,
oui.
Parce que l'Australie est un pays de bagnards, est un pays de chercheurs d'or, et il manque de femmes.
De femmes célibataires.
Femmes célibataires. Alors, elle remplit complètement les conditions. Elle a 20 ans.
Ouais.
Elle monte sur le bateau. Et pour moi, quand j'ai fait sur la carte son parcours et tout, parce qu'elle passe par ce canal de Suez qui vient d'être percé,
ouais.
Juste, c'est absolument incroyable le courage. En fait, c'est une aventurière, quoi.
Oui, c'est
évidemment,
ça.
Évidemment.
Elle a quand même un tempérament très, à vivre ce genre de choses.
Oui, oui, oui. Et qui a peur de rien. Qui n'a peur,
qui a
de,
peur
rien.
De rien, oui. Et donc, elle commence comme professeur de littérature, c'est ça, là-bas en Australie ?
Ben, elle se place comme gouvernante chez les laineiers, parce
ah oui,
qu'on avait les laineiers d'Australie, ils avaient donc des producteurs de les moutons australiens sont connus. Ils ont inventé là-bas la tonte mécanique
c'est
qui
ça.
Leur permet de multiplier les têtes de moutons. Et à partir de là, ils ont des accords extrêmement proches, ils sont très proches des filature et des textiles du nord de la France.
C'est ça.
L'île Roubaix-Tourcoing, cette région-là, est en liaison avec l'Australie. Et elle se place comme gouvernante pour apprendre le français aux petits qui auront besoin par la suite de cette langue pour des raisons économiques, pour des relations.
Comme ça,
voilà. Voilà.
Mais dans, à la lecture de votre récit, on découvre, enfin moi j'ai été surprise par les liens qui existent entre l'Australie et la France depuis assez longtemps en fait, des liens
absolument.
Historiques.
Absolument. Des liens très proches à ce moment-là. Elle-même va être un des membres fondateurs de l'Alliance française à Sydney. Et nous avons eu cet été, quand nous avons appelé une place Augustine Soubéran, nous avons vu arriver la présidente de l'Alliance française de Sydney qui était là.
Ah oui.
Oui, oui, oui. Elle est arrivée, donc Cathy Lynn. Et voilà, on était très heureuses de la recevoir.
D'accord. Donc si on revient à notre Augustine, au bout d'un moment, elle crée une école moderne de jeunes filles.
Absolument.
Mais pas une école qui ressemble pas du tout à ce qu'on a l'habitude de voir à l'époque,
pas
on est d'accord.
Tout. Elle a des idées pédagogiques. Alors, il faut le dire comme c'est, elle rencontre une jeune femme avec qui elle va faire à Miami, Louisa Gurney, qui était suffragette.
Oui.
Donc, il y a aussi un engagement féministe très important. Et cette Louisa Gurney, avec toutes les deux, elles vont monter une école de façon à ce que maintenant, alors qu'en Australie, l'université s'ouvre aux femmes, ce qui n'était pas le cas en France, à partir de là, elles vont vouloir former des filles qui soient les égales des garçons sur les bancs de l'université. Alors, elles vont avoir des méthodes pédagogiques très, très surprenantes parce que, par exemple, les repas se prennent dans de la porcelaine de Limoges et on parle en français et on sert à la française les repas.
C'est un petit côté mondain.
Avec, oui, très civilisé. Et on danse le quadrille à la française. Mais à côté de ça, on a une ferme sur la propriété et tout le monde apprend à nettoyer les vaches, les écuries. Il n'y a pas de sot métier, il n'y a que de sottes gens. C'est-à-dire que ces filles-là sont au contact de toutes les réalités. Elles forment des esprits. Alors, elle est passionnée de littérature.
Ouais.
Elle leur lit les lettres de Madame de Sévigné. Elle est en particulier, elle aime beaucoup le 17e. Et elle fait la promotion d'une littérature française qui se développe dans les rangs de l'aristocratie de Sydney. Et on lui doit, à mon avis, beaucoup.
Ah oui, oui, oui. À la lecture de votre ouvrage, on voit bien ça. Alors, donc, voilà, il y a l'histoire de cette école moderne et comment ce qu'elle apporte d'innovant en termes de pédagogie et même de vie au quotidien avec ces jeunes filles. Et puis, à un moment donné, elle a l'âge d'arrêter et de prendre sa retraite. Et c'est le démarrage de la Grande Guerre.
Alors, le problème, c'est qu'elle prend sa retraite en juin 1914.
C'est ça.
Alors, l'attentat de Sarajevo, hein, 28 juin, voilà, on y est. Donc,
ouais.
Le 3 août, la France a mobilisé et c'est le début. Et pour elle, elle est complètement, je veux dire, elle est Sevenole, elle est française et elle est australienne.
Oui, c'est ça.
Et
c'est ça.
Elle a cette triple identité. Et alors, pour elle, il va falloir travailler. Elle va monter une trentaine d'ateliers où on va travailler la laine, où on va tricoter des milliers et des milliers de paires de chaussettes à quatre aiguilles pour les soldats sur le front et des pulls. Et des...
Donc tout ça est envoyé en France, hein,
c'est et ça. Et tout hein. ça est envoyé. Et en même temps, elle fait des causeries où elle explique le front, elle explique ce qui se passe en France. Et ces causeries, elle lève des fonds. Et elle lève des fonds.
Beaucoup
elle fait
hein.
une énorme tirelire, énorme. Et en 1917-18, elle ramène elle... cet argent en France. Et honnêtement, alors je vais dire qu'elle, c'est qu'il a, elle est en pleine compassion et ce qui lui perce le cœur, c'est la situation des veuves et des orphelins.
Oui.
Elle monte donc deux orphelinats et puis elle va aider les veuves qui restent, donc les maris tombés au front, elles sont sans ressources.
Oui, c'est
donc
ça.
Elle va les aider. Alors ça, c'est dans un premier temps. Et là, elle va rencontrer Albert Mettin, qui est un homme politique du Jura. Et cet Albert Mettin prépare... pour l'après-guerre, une mission diplomatique extrêmement importante pour prendre la place des Allemands dans les relations économiques après la guerre, donc avec l'Australie. Alors, il y a cette, dans cette mission, il y a 16 personnes, dont évidemment des agronomes, des éleveurs de moutons, des lainiers du nord de la France, il y a des hommes politiques, il y a des militaires pour continuer l'effort militaire, et il y a une femme dans cette mission.
C'est elle.
C'est elle. Alors, on se pose des questions. Qu'est-ce qu'elle fait là ? Eh bien, elle part avec cette mission. Ils sont le 14 juillet 1918 à Londres. De Londres, ils vont partir. Alors, ils sont reçus en grande pompe, évidemment. De Londres, ils partent par bateau à New York. Elle arrive dans la baie de New York. C'est un émerveillement. Puis, elle va traverser avec sa mission toute l'Amérique sur ce fameux train... qu'on connaît, qui traverse, qui va jusqu'en Californie. Elle arrive à San Francisco. Et là, imaginez-vous que Albert Mettin meurt. Subitement, brutalement. Il est épuisé. Et on pense que la mission va s'arrêter là. En fait, la mission repart. Et c'est le général Pau qui la reprend.
Ah, voilà, c'est ça,
et c'est la mission du général Pau. Il avait perdu un de ses bras pendant la guerre de 1870. Et l'équipe... Général Pau et Augustine Soubéran va faire merveille. Parce qu'une fois qu'ils arrivent en Australie, ils vont faire des meetings, ils vont animer des causeries, des conférences, lever des fonds, lever des fonds, lever des fonds.
Mais elle, elle est vraiment, c'est vraiment la porte-parole. C'est elle qui...
Absolument.
C'est vraiment
absolument.
Son rôle, quoi. Hein.
C'est son rôle. Et ces fonds extraordinaires, cet argent, elle va le ramener en France. Et à ce moment-là, la guerre est terminée. Elle fait la visite des villages du front qui ont été dévastés. Sur le front de la Meuse, etc.
Ouais.
Voilà, en particulier. Elle arrive dans un petit village à Poilcourt.
Ah, voilà.
Imaginez-vous que Poilcourt... J'y suis allée. Hein. J'ai été reçue, oui, à Poilcourt, par les élus de Poilcourt. Et là, elle n'a plus d'argent. Alors, elle a l'idée de jumeler la ville de Poilcourt avec la ville de Sydney.
Ouais.
Et aujourd'hui, Poilcourt s'appelle Poilcourt-Sydney.
Oui.
Voilà. Et... ils viennent de fêter, en 2021, novembre 2021, le centenaire de leur jumelage avec Sydney. Sydney va payer pour la reconstruction du village de Poilcourt. Et elle est à l'origine de tout ça. Et elle va faire un travail de terrain fabuleux. Et quand elle a fini, elle va rentrer en 1922 sur l'Australie. Elle mourra en 1933 avec des hommages du maréchal Foch. Elle recevra la Légion d'honneur à titre posthume et ses cendres seront ramenées en France et elle sera honorée en Australie. Et aujourd'hui, l'Alliance française en Australie honore toujours la mémoire d'Augustine Soubéran, cette grande Sévenole.
Du coup, c'est assez étonnant que la mairie de Saint-Jean-du-Gard n'ait pas valorisé plus tôt cette femme, quand même.
Alors, je vous le dis carrément, comme c'est, mon maire m'a dit, Nelly, en nous faisant changer le nom de la place, tu nous as fait faire une grosse connerie. Eh bien, j'étais malheureuse, parce qu'on n'avait pas compris la démarche. Et on a cru à une manipulation de ma part pour faire vendre un livre. Je ne touche rien sur mes livres. Je n'ai pas signé avec l'éditeur de contrat parce que pour moi, c'est un engagement pour la cause des femmes. Voilà.
Donc, vous êtes une historienne, j'ai l'impression, un peu atypique dans votre approche de l'histoire. Et tant mieux. Ça, c'est un point de vue assez personnel. Mais est-ce que vous êtes aussi atypique qu'Augustine Soubéran ?
Certainement dans ma pédagogie et dans mon enseignement, oui. Puisque en 1978, quand j'ai mené à l'hôpital de Pertuis mes classes de 3e pour qu'on fasse la visite et des centres d'avortement et de prévention, etc., avec des garçons de 15-16 ans et des filles, en 1978, c'était atypique.
En effet,
Et je pense que j'ai toujours cherché à être dans le contemporain et voir un peu plus loin dans notre modernité, si vous voulez.
Oui, qu'est-ce que une longueur sur, d'avance, quoi.
On va dire. Mais en tout cas, je suis d'une famille de 4 filles et il aurait fallu peut-être tous les jours qu'on s'excuse auprès de mon père de ne pas être le garçon qu'il aurait aimé. Et je me dis que nous avions bien nos qualités, nous aussi, et qu'il faut valoriser, je pense, l'apport des femmes.
Bien sûr.
Hommes et femmes, nous sommes complémentaires. On n'est pas en rivalité, on est en complémentarité. Et je rassure, j'aime les hommes, évidemment.
Oui, mais redonner leur place aux femmes, c'est ce qui se fait depuis un moment, et tant mieux. Et donc, votre livre contribue, je pense, à ça.
C'est le but. Bonne chose. C'est pour ça que je ne signe pas de contrat d'édition. Si ça permet, après, de faire éditer des jeunes et des jeunes filles, je suis heureuse.
Très bien.
Voilà.
On finit sur cette note très positive. Merci beaucoup à vous.
Je vous souhaite bonne réussite à votre salon et puis à votre radio. Merci de m'avoir accueilli.
Avec plaisir. Donc, l'émission se termine sur les ondes de Radio Escapade. Nouveau rendez-vous demain, un nouveau plateau radio qui accueillera à nouveau des auteurs. Bonne journée à tous. À bientôt.
Je te demande pardon pour ma générosité triquée, froissement cartésienne. Pardon de ce qu'elle n'ait jamais su atteindre la cheville de la tienne. Pardon d'avoir fait trimer ta patience et emmurer ton temps. Pardon d'avoir mis tes désirs sous le tapis de mon ambition. Je te demande pardon d'avoir entaché ton précieux respect de peur et de méfiance. Pardon d'avoir couru devant sans jamais pouvoir ralentir la cadence. Pardon d'avoir alors que le printemps voyait le jour. Pardon abandonné les arbres et le travail du labour. Qu'il est dur d'avoir mes cœurs rompus. Je te demande pardon de ne pas pouvoir te prendre dans mes bras ni te consoler. Pardon de vouloir quand même te sourire et te dire ça va aller. Pardon de t'aimer toujours et si mal le cacher. Pardon de n'avoir pas su te donner ce que tu m'aimais. J'ai toujours fait ce que j'ai voulu. Je te demande pas.